CO2 mon amour avec Honda Automobile, constructeur de véhicules hybrides essence électrique.
Ça se reconnaît un écologiste.
Les quotas de thon rouge.
L'hydrogène aujourd'hui ne sert à rien.
Il y a urgence à agir pour sauver la planète.
CO2
sans produits chimiques.
Mon amour.
Avec tous ces oiseaux à la con, ils sont 50.
Denis Chessou.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie aussi de prendre le temps de ne pas aller trop vite, avec aujourd'hui Michel Thomas et Thomas Elias à la technique, et assisté de Marion Lelay et de Jean-Christophe Pinaza d'Annecy. C'est Valérie Ayestarai qui réalise cette émission. Allez, on va débuter par une petite humeur parce que la France tout entière a été déclarée, on le sait, zone non-fumeur. Donc les anti-tabac en rêvaient. Eh bien, les compagnies pétrolières s'y préparent pour peu qu'on leur donne le feu vert. Total, GDF Suez, Toreador et d'autres, nous ferons bientôt jaillir du gaz aux quatre coins de nos campagnes. Et alors là, plus question d'allumer une cigarette. Oh là, et vous avez pas vu le panneau là, interdiction de fumer dans toute la zone. Mais attendez, monsieur l'agent, moi je suis dans mon jardin. Rappelez-vous, notre émission donc a consacré un véritable sujet sur le gaz de schiste. C'était début janvier, CH4, mon amour. Nous sommes assis sur un trésor d'énergie fossile. Des milliards de mètres cubes de gaz dit non conventionnel dorment sous nos pieds. Alors résumé des prochains épisodes. Des puits de gaz en Languedoc-Roussillon, en PACA, en Midi-Pyrénées, en Aquitaine, je reprends mon souffle, Rhône-Alpes, Champagne, Nord, région parisienne, Montélimar, ex-capitale du Nougat et Nouvelle-Dallas du gaz de schiste. Et puis pas loin, l'Ardèche vous accueille. Son barde d'Entraigues, son air pur, ses châtaigneraies millénaires et ses forages gaziers. Avec les quantités qu'on nous promet, les énergies fossiles, c'est reparti, allez quoi, 50 pour 100 ans. Remettez les compteurs à zéro, faites sonner les tambours et les trompettes, rangez les tramways, les vélos, les panneaux solaires, sortez les 4x4 et les piscines en plein air, chauffez tout l'hiver. Je sais, j'exagère toujours. Un demi-million de puits de gaz naturel en 2009 aux États-Unis, record à battre. En France, on n'a pas Sarah Palin, mais on a eu Jean-Louis Borloo. Creuse, bébé, creuse, car avant de partir, eh bien, papa Grenelle nous a signé sur un coin de table quelques permis d'exploration, sans véritablement souffler mot aux collectivités concernées. Alors, chauffez tranquille, braves gens, nous faisons le reste. Ça s'appelle la fracturation hydraulique, Kézako. On en avait parlé, mais quand même. On creuse des puits tous les 500 mètres, on injecte des millions de litres d'eau additionnés de substances chimiques et on remonte à la surface un mélange d'eau, de gaz, de substances toxiques et radioactives naturelles qui gisaient tranquilles dans les profondeurs. Pendant que EDF et Areva enfouissent leurs déchets radioactifs, eh bien, GDF Suez, Total, peut-être les déterrons. Bref, une technique qui risque fort de contaminer les nappes phréatiques, comme en Pennsylvanie, hein, 70 000 puits et du gaz dans l'eau du robinet, qui vous expose à la figure si vous fumez sous la douche. Eh oui, il faut faire un choix. Comme le fait remarquer John Quigley, ancien secrétaire du département de la protection de l'environnement et des ressources naturelles de Pennsylvanie, on brûle les meubles pour chauffer la maison. Alors à voir d'ailleurs aussi le film américain Gasland, hein, le pays du gaz, qui a reçu une nomination aux Oscars et sort bientôt en France. Alors en France, me direz-vous, tout ça, ben c'est impossible. Et pourtant, au large de la Guyane, on s'attaque ces jours-ci, avec la bénédiction du préfet de région, au record de France de forage pétrolier à 150 km des côtes, le plus profond. Là où il s'agit aussi d'exploration, on descendrait quand même jusqu'à 6000 mètres. Hein. Qui dit mieux ? L'équivalent du puits de BP l'année dernière dans le golfe du Mexique, à l'origine de la pire marée noire des États-Unis, eh ben on était déjà à 1500 mètres de profondeur et où on a vu le résultat des réparations. Donc les tortulutes et autres habitants d'un des écosystèmes marins les plus productifs du monde sont extrêmement attentifs. En métropole, pendant ce temps, on attend le rapport de la mission d'inspection des gaz de schiste. Une mission lancée avec un temps de retard, faut bien le dire, par Nathalie Kosciusko-Morizet, un peu gênée aux entournures, et Éric Besson qui s'occupe de l'énergie. Quand on vous disait qu'on allait agréter nos éoliennes, hein ? Je ne reviens pas sur les jacqueries qui étaient donc extrêmement nombreuses hein, du côté de l'Ardèche, du Gard. On sait que vous êtes tout à fait manifestés fortement contre ces gaz de schiste. C'est vrai que ces histoires-là se font toujours, on en avait déjà parlé, mais avec quand même un manque de transparence au départ. Et ça agace profondément les citoyens que nous sommes. Au menu. Alors Jean-Marie Pelt, évolution vue par un botaniste. Nous allons classifier les plantes avec lui. Et puis nous aurons un petit débat assez chaud d'ailleurs sur le principe de précaution, parce que Jean de Kersvasdoué a sorti un ouvrage qui s'appelle La peur est au-dessus de nos moyens, pour en finir avec le principe de précaution. Et face à lui, il y aura Bettina Laville, qui est avocate, qui est membre du Conseil d'État. Et enfin, troisième partie, bien nous aurons un agenda assez fourni qui va nous emmener dans le monde des plantes, et nous retrouvons aussi Hervé Kempf avec son ouvrage qui s'appelle L'oligarchie, ça suffit. Mais auparavant, un peu de douceur. Nous sommes encore en hiver, mais si on est en hiver. Écoutez Henri Salvador.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières, des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
Respirez Jean-Marie, c'est bientôt à nous. Ça va? Tout va bien?
Ça va très bien. Bonjour Denis, bonjour à tous.
Nous y sommes avec Jean-Marie Pelt, l'évolution vue par un botaniste. Nous allons tenter de classer les plantes, tiens, tenez, aujourd'hui. La classification des plantes à fleurs, ça a toujours été un véritable casse-tête, ça.
Ah, ça a été un immense casse-tête. Les botanistes ont énormément travaillé pour essayer de trouver un ordre logique dans la classification. En fait, l'ordre logique serait de savoir comment les plantes sont descendues les unes des autres par évolution. Voilà. Et donc, il faut qu'on arrive à construire un arbre généalogique du monde des plantes. Et si on essaye d'établir un arbre généalogique, alors on voit qu'il y a des pistes, des lignées. Voilà le mot qui convient. Il y a des lignées. Alors une est extrêmement intéressante, c'est ce qui se passe au niveau des fleurs. Le plus ancien fossile de fleurs que l'on possède, c'est un nénuphar, et il a 125 millions d'années. Très anciennes aussi sont les fleurs de Magnolia. Et ces fleurs ont un point commun que vous aurez remarqué tout de suite, c'est qu'elles sont grosses. Et puis, la nature a eu tendance, en évoluant, à miniaturiser ces grosses fleurs. Et au fur et à mesure que les grosses fleurs se miniaturisent, elles ont tendance à se regrouper. Et elles finissent par se regrouper intimement pour former une société de fleurs, une sorte de république de fleurs. Et ce qui est très étonnant, c'est que dans cette société de fleurs, l'ensemble de cette société se réorganise comme une fleur. Et c'est l'exemple de la marguerite. Quand vous regardez une marguerite, vous voyez les pétales blancs. Ce ne sont pas des pétales, ce sont des fleurs. Car au pied de ce pétale blanc, il y a des organes sexuels, pas efficaces, plus ou moins avortés. Et au milieu, il y a un rond tout jaune. Ce ne sont pas des étamines, ce sont des fleurs, mais qui n'ont plus de pétales et qui n'ont plus que les organes de la reproduction.
Donc une fleur dans une autre fleur, en fait.
Alors c'est en quelque sorte une fleur dans une autre fleur. C'est un ensemble qui se reconstruit comme une fleur, avec à l'extérieur des éléments blancs qui attirent naturellement les insectes, et au centre, les éléments qui contiennent le pistil et les étamines, et qui vont être fécondés par l'insecte qui sera venu et qui apportera le pollen d'une autre marguerite. Alors on pourrait croire que ces sociétés de fleurs, c'est la fin d'une piste évolutive. Pas du tout. Le mécanisme va continuer. Ces sociétés de fleurs peuvent avoir une très grande taille. Dans le cas du tournesol, ces énormes floraisons du tournesol que vous connaissez, qui penchent la tête du côté du soleil.
Plante héliotrope.
Héliotrope, absolument. Alors ces nouvelles sociétés de fleurs vont commencer à se miniaturiser de nouveau. C'est-à-dire qu'elles vont devenir de plus en plus petites et on va voir que plusieurs sociétés de fleurs vont s'associer pour donner une société de sociétés de fleurs. Ça, c'est très extraordinaire. Et l'exemple, c'est l'Edelweiss. Alors, vous regardez un Edelweiss, vous avez des petits capitules qui sont les sociétés de fleurs primitives.
Qu'est-ce qu'on appelle les capitules ?
Et c'est la société de fleurs.
D'accord.
Qu'on appelle le capitule.
Ben les mots de capitulaire, d'ailleurs, aussi, ça vient de là.
Oui, hein, ça vient de là, oui, tout à fait. Et ces capitules sont petits dans l'Edelweiss. Il y en a plusieurs. Ça fait des petites bosses grises, comme ça, au milieu, serrées les unes contre les autres. Et autour, il y a des pièces qui ressemblent de nouveau à des pétales. Okay. Et ça s'est à nouveau réorganisé comme une fleur. Alors, ici, vous avez une démonstration de deux choses. Vous avez un phénomène de division du travail, puisque chaque élément, l'un attire l'insecte, l'autre, ça sera pour la reproduction. Donc division du travail et organisation en société complexe. Et alors, comme les botanistes aiment inventer des mots, un capitule de Edelweiss s'appelle une incapitulescence. C'est pas beau, ça,
c'est, mal, ça.
C'est joli comme mot.
Et alors, ça va aussi quand même, je dirais, à l'inverse de certaines tendances donc évolutives qui vont vers le gigantisme.
Et c'est exactement le contraire des centrales nucléaires. Non, mais c'est très vrai. Pourquoi je dis ça ? Parce que on est en train de construire des EPR, qui sont les nouvelles centrales de troisième génération. EPR, oui. On en construit une en Finlande où on a beaucoup de retard.
On
en
Flamanville, construit une à Flamanville beaucoup aussi, de retard aussi.
Beaucoup de retard. Et voilà qu'on s'aperçoit en les construisant qu'on les a pensées trop grosses et que nos clients, sur le plan mondial, ne les veulent pas,
ouais.
Parce qu'ils les veulent plus petites.
Oui.
Je trouve cette histoire extraordinaire. Mais ce n'est pas une blague, hein. C'est très vrai. Et on est en train maintenant d'en inventer des plus petites. Donc on va miniaturiser les monstres qu'on a faits, exactement comme la nature a miniaturisé les capitules sur le sol. C'est le même mouvement.
Mais en général, on dit que, et on l'a vu avec les dinosaures, plus une espèce est grosse, et à la limite, plus elle est fragile.
Absolument, c'est une loi qui est la loi de Dolo, où ça s'est manifesté d'une manière spectaculaire pour les dinosaures. Ça s'est manifesté à la fin de l'ère secondaire, quand les dinosaures ont été emportés par la fameuse météorite qui est tombée sur la Terre, qui a mis le feu aux forêts. Et les mammifères petits ont résisté. Ça a été la même opération à la fin de l'ère primaire, à la fin du Permien, où il y a eu des phénomènes de volcanisme extrêmement intenses, où les grands carnivores de l'époque ont disparu, où la plupart des grands herbivores ont disparu, et où des petites bestioles sont restées. C'est une loi.
L'évolution est toujours là, c'est-à-dire que ce soit dans le sens de la miniaturisation,
oui.
Ou il y a du gigantisme, etc., peu importe.
L'évolution est toujours là.
Oui.
Et le principe d'associativité est toujours là, puisque les fleurs s'associent entre elles pour former des sociétés de fleurs. Mais il y a un cas qui est encore plus intéressant que celui des marguerites et des tournesols et de l'Edelweiss, c'est le cas des euphorbes. Alors là, c'est encore plus compliqué parce que il y a, un, la miniaturisation, deux, la resocialisation, et trois, il y a des avortements. Voilà des fleurs qui avortent. Alors une fleur de forme ne peut pas exister avec les deux sexes. Elle n'est pas hermaphrodite. Elle est ou mâle ou femelle. Et elle est d'une simplicité extrême. La fleur mâle, c'est une étamine et rien de plus. La fleur femelle, c'est un pistil et rien de plus. Et alors, il faut voir avec quelle énergie extraordinaire cette petite étamine et ce petit pistil se réorganisent pour former des ensembles avec plein de petites étamines et plein de petits pistils. Et puis ensuite, il y a plein de petites étamines qui disparaissent, il ne reste plus que 5. Alors on dit 5 étamines, c'est une fleur normale. Eh bien, ces ensembles qu'on appelle des ciaciums, il faut retirer ces mots scientifiques, se regroupent ensuite par de nouveau des miniaturisations et par de nouveau des avortements, pour fabriquer des ciaciums, de ciaciums qu'on appelle, donnez-vous bien, des insiatescences. C'est toute l'essence de la botanique qui est là-dedans. L'insiatescence, c'est pas beau ça.
C'est bien,
eh bien, vous savez où on en voit, les insiatescences?
Pas du tout.
Sur les poinsettias, vous voyez ce que c'est?
Ah oui, bien sûr.
Voilà, on les voit sur les poinsettias, pour que les insectes viennent quand même sur ces foutues plantes, fleurs qui n'ont pas de pétales, eh bien, c'est les feuilles qui remplacent les pétales et qui viennent toutes rouges. C'est pour ça qu'elles
sont
rouges, pour attirer les insectes. Parce que la fleur s'est tellement dévêtie et a tellement eu d'avortement qu'elle n'a plus de pétales du tout. Donc elle est devenue non fonctionnelle. Donc il fallait que les feuilles viennent à la rescousse et ça a donné les belles couleurs rouges de l'extrémité du poinsettia.
Et c'était donc une belle histoire de Jean-Marie Pell, une histoire d'évolution vue par un botaniste chez Fayard. Et on se retrouve quand ?
Samedi prochain.
Allez, vendu. Et dans trois minutes, ce sera notre débat sur le principe de précaution. Ce sera donc la deuxième partie de ce magazine. Voici Ayo sur France Inter.
De mon amour, Denis Chessou.
Voilà, c'était Ayo, donc tournée et album France Inter, donc qui bougeait bien, comme je pense devrait bouger aussi notre débat, donc débat autour du principe de précaution, avec vous, Jean de Quesvardoué, qui est professeur au Conservatoire des Arts et Métiers, membre de l'Académie des Technologies, ancien directeur général de la Santé. Vous venez de sortir, d'où effectivement cette actualité, La peur est au-dessus de nos moyens, sous-titre pour en finir avec le principe de précaution, aux éditions Plon. Alors, faut le dire, c'est pas le premier ouvrage dans lequel vous taillez en pièces les écologistes. Et face à vous, Bettina Laville, avocate, membre du Conseil d'État, présidente fondatrice du comité 21 et aussi vraiment grande figure depuis longtemps du développement soutenable. À l'époque, Bettina Laville, donc vous travaillez aussi vous avez travaillé avec le cabinet de Lionel Jospin et avec Olivier Lioncamp, vous avez commandé au professeur Kourilski et à Geneviève Vinet un rapport sur le principe de précaution qui après a fait véritablement autorité dans l'Union européenne. Donc nous étions dans les années 2000 et c'est sur ce rapport que tout le monde s'est appuyé. Alors peut-être tout d'abord une définition du principe de précaution par une autre personne, parce que je ne suis pas sûr que vous serez forcément d'accord, avec Arnaud Gossman, avocat spécialiste en environnement, définition.
Il faut tout d'abord se rappeler que le principe de précaution est inscrit directement dans notre constitution, c'est-à-dire dans la règle de droit la plus importante dans notre pays. Donc c'est vraiment un principe fondamental du pacte social des Français. Première chose. Deuxième chose, il faut aussi souligner que le principe de précaution est d'application rare. Le principe de précaution s'applique uniquement dans des situations d'incertitude scientifique radicale où la communauté scientifique est divisée, il n'y a pas de consensus, il n'y a que des indices, que des hypothèses, des connaissances fragmentaires à propos de risques dont on n'est pas sûr ni de l'existence, ni de la fréquence, ni des conditions de leur réalisation. Donc il faut bien voir que ce principe, d'abord, contrairement à ce que j'entends souvent, s'applique de manière assez rare à des situations du type OGM, champ électromagnétique classiquement, ou nanotechnologie. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, il faut savoir aussi que ce principe qui existe en France dans la loi depuis 1995 est d'application assez rare aussi par le juge. Le juge aujourd'hui, y compris en matière d'antenne relais de téléphonie mobile, a rarement recours au principe de précaution, contrairement à ce que l'on entend aussi.
Alors Jean de Casvardoué, en lisant cet ouvrage, pour vous, on va dire que dans le meilleur des cas, ce principe de précaution ne sert à rien. Dans le pire des cas, il va nous emmener vers l'inaction, la paralysie et la peur. Est-ce que vous avez une définition de ce principe de précaution ?
Alors, ce que l'on peut en dire, c'est que ce principe est procédural et ce principe dit deux choses, en fait. En cas d'incertitude, il faut prendre des mesures proportionnées, et je dis que c'est idiot, parce que quand c'est incertain, ça ne peut pas être proportionné. Et il dit qu'il faut faire de la recherche, et le chercheur que je suis et que j'ai été trouve que tout ça, c'est très bien. Mais on voit bien, avec l'exemple des faucheurs volontaires, qui détruisent les expériences qui ont été faites pour tester leurs hypothèses, donc pour démontrer qu'ils pouvaient, eux, avoir raison. Donc le fait de faire des recherches et encore des recherches sur ces sujets, comme les OGM, pour les OGM, la messe est dite. C'est-à-dire qu'il y a 12 millions d'agriculteurs dans le monde qui en cultivent, il y a 1 milliard d'humains qui en mangent, les cochons bretons mangent des sojas OGM américains, ils ne sont pas phosphorescents. On sait bien que la transgénèse est d'une manière beaucoup plus simple, beaucoup plus éduquée, développée, précise, que la mutagénèse aléatoire qui était faite jusque-là.
Alors, est-ce que ça nous emmènerait, allez, on y va carrément, pour vous, vers un certain obscurantisme, vers une régression de la science
ou... La réponse est oui. On voit bien que dans les deux cas précis, qui sont un, les OGM, et deux, alors les raisons invoquées ont été un peu différentes, mais les cellules souches, les raisons invoquées ont été religieuses, plus que les principes de précaution. On voit qu'on a du mal d'être un pays moderne, avec une agriculture moderne, en se barrant. Les travaux sur les cellules souches, dont je rappelle qu'il y a 2 ans, les prix Nobel de médecine ont été donnés à des gens qui travaillent sur ce sujet. Donc les équipes françaises, notamment de Pasteur, sont parties à l'étranger, pas toutes aux États-Unis, certaines en Chine. Quant aux OGM, nous avions en France une très grande industrie qui était une coopérative qui s'appelle Imagrin, qui avait une expertise dans le domaine. L'INRA avait une expertise dans le domaine qu'elle conserve tant bien que mal.
Mais ce que vous dites, c'est que maintenant l'expertise est entre les mains de Monsanto et des...
Oui, c'est
des
ça. C'est ce qui est très curieux, c'est que ça renforce l'oligopole dans ce domaine. Monsanto a autant d'avance sur les OGM que Microsoft là, dans le domaine de l'informatique. Et on le sait très bien que dans le colloque international, les pays qui n'ont pas d'industrie ont au mieux un strapontin.
Alors, maintenant, Bettina Laville, donc, s'il vous plaît, je le rappelle, membre du Conseil d'État, présidente, donc fondatrice du comité 21, vous avez lu cet ouvrage aussi avec attention. Que souhaitez-vous en dire ?
Eh bien, moi, j'ai été d'abord intéressée par l'ouvrage, hein, qui est plein d'informations à caractère scientifique, mais j'ai été finalement extraordinairement gênée par l'ouvrage. Comme d'ailleurs un ou deux ouvrages de M. de Carvaz-Doué en particulier.
Les prêcheurs de l'Apocalypse.
L'Apocalypse, pour plusieurs raisons.
On n'est pas à son coup d'essai.
Voilà. Oui. D'abord parce que M. de Carvaz-Doué vient de rappeler, et c'est vrai qu'il est un chercheur, et donc on attend de lui ce qu'il appelle d'ailleurs dans son livre la séparation des ordres, en l'occurrence la séparation de l'ordre scientifique et de l'ordre émotif. Mais votre livre est malheureusement absolument le contraire, et d'ailleurs le titre en témoigne tout à fait, puisque si vous aviez voulu faire vraiment une critique du principe de précaution, vous n'auriez pas mis le petit titre pour en finir, le principe de précaution, très discrètement, et puis le titre terriblement accrocheur et qui fait terriblement référence à ce que vous critiquez, c'est « La peur est au-dessus de nos moyens ». Je veux dire, ça c'est véritablement la preuve que vous poursuivez l'excès d'une part et la mauvaise interprétation du principe de précaution. D'ailleurs, ce principe de précaution a été étendu, vous le remarquez dans votre ouvrage, au domaine de la santé par la jurisprudence, et que les fondements du principe de précaution sont sur l'environnement. Mais dans tout l'ouvrage, il y a une extraordinaire confusion des termes entre les gens qui défendent le principe de précaution sont des peureux et des frileux. Rien n'avance par la peur et la frilosité. Les gens qui sont pour le principe de précaution sont contre le progrès. Encore faudrait-il savoir évidemment quel progrès, etc. Et par conséquent, ce principe va enterrer la science. Alors moi, je suis fondamentalement en désaccord. Je veux dire, il y a vraiment une peur de s'asseoir et de considérer si ce que l'on trouve ou ce que l'on cherche doit être comparé à un moment donné, mis en balance, et c'est tout le sens du principe de précaution, avec, allons vite, le bien de l'humanité. En revanche, et je crois que vous ne le citez pas, ça m'a beaucoup étonné dans votre livre, je crois que Bruno Latour, le philosophe, a tout à fait bien expliqué ça. Pourtant, je l'ai bien lu, mais ça m'a échappé. Bruno Latour dit très bien que le principe de précaution est un principe d'action et pas du tout d'inaction. Il dit très bien que c'est un principe fait pour agir et que c'est un principe de responsabilité. Jean-Pierre Boisdet, d'ailleurs, dit que Jonas n'est pas un philosophe sur lequel on doit s'appuyer et que le principe de responsabilité n'est pas un principe qui fonde la science. Mais justement, nous sommes dans un univers où il y a les scientifiques, où nous avons une potentialité scientifique dans notre siècle extraordinaire, que moi je respecte infiniment, c'est tout à fait sûr, mais ce n'est pas un principe qui entrave la science.
Alors lorsque vous citez Jonas, c'est bien Hans Jonas, qui donc ce philosophe allemand, avec le principe de responsabilité, qui donc aurait fortement aussi inspiré ce principe de précaution. Alors peut-être réponse de votre part.
Alors deux remarques essentielles. Est-ce que vous pouvez nous évoquer un domaine où le principe de précaution a servi à quelque chose? Moi, je regarde la manière dont a été gérée l'épidémie de grippe et je vois que, comme on le dit, en cas d'incertitude, on prend des mesures proportionnées. Dans le cas précis, on croyait que le virus allait être aviaire, il a été porcin. On croyait qu'il allait être asiatique, il a été mexicain. Et quand on s'est aperçu que ce virus n'était pas aussi contagieux qu'il l'a été, on a eu l'orgueil de commander 10% du vaccin mondial, 30% du Tamiflu mondial pour 1% de la population du monde. Et comme le virus était facétieux, il est arrivé avant les vaccins et les dépenses que nous avons faites ne servent à rien.
Qu'est-ce que c'est que ça?
En termes populaires, ça s'appelle jeter le bébé avec l'eau du bain. Puisque nous savons parfaitement que le traitement politique de cette affaire a été une mauvaise interprétation totalement frileuse et irresponsable du principe de précaution.
Mais qui interprète ce principe, Bettina ?
Mais la jurisprudence, vous savez, a bien dit que c'était l'État qui appliquait ce principe.
On voit bien que ce principe dans le cas précis a conduit à des décisions, disons, discutables, pour être gentil.
Je n'ai pas dit ça. J'ai dit que la méconnaissance de la bonne application de ce principe avait conduit à cela. Ça veut dire exactement ce qui est explicité dans le texte. C'est-à-dire que quand on est devant un risque, qui n'est pas un risque avéré, parce que très souvent dans le livre, vous confondez, je trouve, prévention et précaution. Non,
mais c'est ça qui m'amuse
lorsque
beaucoup.
Ce n'est pas un risque avéré. Lorsqu'il y a un, et d'ailleurs le rapport du Conseil d'État que vous citez, je crois, à un moment donné, le disait parfaitement. Je crois que c'est le rapport de 98. On peut très bien considérer qu'il peut y avoir un risque. Je veux dire, ça, c'est une évidence. Bon, eh bien, on fait une analyse d'abord coût-avantage. C'est toute l'affaire disproportionnée, proportionnée, etc. Et on approfondit avant de prendre une décision. Ce n'est pas du tout l'histoire de la grippe aviaire. Et d'autre part, l'histoire de la grippe aviaire, ce qui a fait complètement basculer cette affaire, c'est quelque chose, comme ancien directeur général de la Santé, vous le savez mieux que moi, une décision complètement stupide qui a été de faire vacciner tout le monde par l'État, si j'ose dire, directement, que dans une république totalitaire, et pas par les médecins. Ça, je crois qu'on est d'accord
beaucoup,
là-dessus.
J'en parle beaucoup.
Et vous en parlez, d'ailleurs.
Alors, entre l'obscurantisme qui peut dominer le monde, parce que c'est aussi un petit peu quand même une de vos thèses, hein. Bon, là, vous, je force un peu le trait, mais c'est quand même un petit peu ça. Je vous propose d'écouter Arnaud Gosselin, parce que lorsque l'on dit, par exemple, que ce principe de précaution, c'est de l'anti-progrès, voici quelle est sa réponse.
Les opposants au principe de précaution, en réalité, l'attaquent souvent parce qu'ils n'osent pas attaquer les écologistes frontalement, donc ils s'en servent, ils se servent de ce principe un peu comme d'un totem à abattre, et leur stratégie a varié dans le temps. Dans un premier temps, ils ont tenté d'interdire l'inscription du principe de précaution dans la loi, voire dans la Constitution. Là-dessus, ils ont perdu, puisque le principe de précaution est un principe de droit. Ensuite, leur stratégie a plutôt été d'essayer de vider de sa substance ce principe. C'est ce qu'ils essayent de faire actuellement, notamment avec l'aide de Claude Allègre, mais également, et bizarrement, de Benoît Apparu, secrétaire d'État auprès de Nathalie Kosciusko-Morizet, qui propose qu'on vote une loi pour mieux définir, c'est-à-dire pour sous-définir le principe de précaution.
Donc, pour eux, c'est de l'anti-progrès. Alors, quel regard vous avez lorsque l'on dit cela ?
Le principe de précaution est un principe qui précise qu'en situation d'incertitude, le politique, et le politique uniquement, ne doit pas attendre de disposer de certitudes pour prendre des décisions. Sous-entendu, il doit prendre une décision, et pour prendre une décision, il doit au contraire renforcer le progrès des connaissances scientifiques. Le principe de précaution, quand on le lit bien, est un principe pro-science, c'est un principe anti-attentisme, il oblige le politique à décider, et évidemment pour décider, le politique aura besoin de l'expert, mais pas que d'un expert, il aura besoin de consulter une pluralité d'experts pour se faire un avis dans une situation de controverse. C'est vraiment un principe pro-science et pas du tout anti-science comme on essaie de le faire croire.
Alors, aujourd'hui, nous avons donc un gouvernement, mais ça, c'est pas très nouveau, avec des avocats d'affaires, des DRH, des économistes. Il y a très peu de scientifiques, il faut bien dire, aujourd'hui, à la tête de ce gouvernement. Sur quoi on peut quand même être à peu près d'accord, Bettina Laville, sur ce thème de principe de précaution? Parce que concrètement, si on ramène ça, on en a parlé là d'un point de vue aussi philosophique, on a à peu près bien compris les points de vue, mais vous avez parlé des OGM, on peut parler effectivement de nourrir le monde, on peut parler de l'eau, on peut parler du bio, on peut parler de beaucoup de choses. Pourquoi ça vous semble quand même important de l'avoir, ce principe de précaution?
D'abord, je crois qu'il faut complètement circonscrire les choses. Nous sommes dans le rapport du scientifique en face du pouvoir politique qui, évidemment, a la décision. La science aussi, bien entendu, fait de l'inattendu. Ça, je suis d'accord.
Mais
c'est-à-dire le principe de précaution.
Je voulais simplement dire que de prétendre qu'on aurait pu se protéger de l'affaire de la vache folle, c'est de faire un contresens.
Ah
je connais bien cette histoire, vous aussi, je pense. Comme vous le savez, il y a eu un débat sur le fait que le prion seul, qui est une protéine, puisse être transférer une maladie. Donc c'est le débat, et c'était l'incertitude scientifique. Donc je crois que, un, il se trouve que j'ai une formation d'écologiste. Donc moi, je suis ingénieur des eaux et forêts, j'ai fait l'agro, j'ai fait 6 ans d'études supérieures en biologie, donc je connais mieux que la plupart des gens l'écologie, je crois, pardon de cette immodestie passagère. Donc je pense que l'écologie est une science et que l'écologie politique, c'est de la politique, et que l'écologie politique n'est pas plus scientifique que le marxisme ne l'était, et qu'il n'y a pas plus de légitimité à faire de l'écologie politique que de faire de la politique scientifique. La politique scientifique est politique, elle n'est pas scientifique.
Vous avez toujours pris la baïonnette là-dessus, hein, c'est clair, dans vos différents ouvrages, ça a toujours été ça.
Je suis pour la séparation des ordres, et c'est pas parce que tel ou tel écologiste dit que ça c'est vrai que ce que je sais de l'écologie en tant que science me dit que c'est vrai. Et comme par exemple sur les bienfaits du bio et du point de vue de l'alimentation humaine, il y a énormément d'études sur ce sujet qui répondent que non, qu'on ne manquera jamais d'eau en France, jamais, 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 aussi longtemps que nous vivrons, étant donné l'eau qui sort de nos 4 grands fleuves plus des petits en plein étiage, enfin, etc.
Donc, c'est la répartition qui risque d'être différente.
Oui, non, mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes d'irrigation dans le sud-ouest que vous connaissez bien, oui, sur certaines nappes phréatiques quand on arrose du maïs, qui est une plante qui est très consommatrice d'eau. Ça, j'en conviens volontiers. Mais comme vous le savez, 10 hectares de maïs, ça consomme autant d'eau qu'une ville de 25 000 habitants. Donc voilà. Donc, il y a des problèmes de gestion de nappes phréatiques. Mais les croyances, si vous voulez, sur un certain nombre de sujets, nous conduisent à prendre des précautions très, très onéreuses et nous conduisent à la perte de compétitivité de la France. Donc moi, je suis pour la prudence, mais je ne suis pas pour la réglementation sur n'importe quoi. Je vais vous prendre un exemple. Il y a 43 familles de règlements qui s'appliquent dans les hôpitaux. Ces règlements sont inapplicables tous en même temps.
Et les microbes les lisent.
C'est qu'on nous oblige, pour la sécurité incendie, à faire des choses raisonnables, je pense. La vie sauvée par la sécurité incendie, ça coûte à peu près 1 milliard d'euros, alors que dans les hôpitaux, il y a 20% des gens qui se lavent peu ou pas ou mal les mains. Donc, si vous voulez, c'est ce décalage. Là, j'avais un ami à qui je prenais le petit déjeuner ce matin qui me disait, écoute, moi, ça nous a coûté dans mon immeuble petit 50 000 euros pour changer un ascenseur parce que les grilles de l'ascenseur avaient un espace de 2 cm, or il en faut 1. Ça, c'est de l'argent mis par les fenêtres.
D'accord. Et tout ça, c'est... Ce n'est toujours pas de la science, d'ailleurs. Donc, on est totalement en dehors de sujet. Et je crois, moi, ce qui m'a frappé encore une fois beaucoup dans votre livre, vous réclamez d'une formation scientifique, mais votre livre n'est pas du tout un livre de scientifique, et je voudrais en donner 3 exemples. Je ne pense pas qu'un écologiste sérieux ait dit que la France allait manquer d'eau. Je pense que les écologistes sérieux disent que le monde allait manquer d'eau.
Merci, madame.
Et que, bien entendu, c'est dans toutes les régions, c'est tout à fait différent. Il y a une pénurie de la ressource en eau parce qu'il y a une très mauvaise gestion de la ressource en eau dans le monde entier. Deuxièmement, dans votre livre, vous nous faites toute une démonstration que les prévisions complètement pleines de fantasmes des écologistes, pour lesquels vous avez une haine de... vraiment, je dois dire, assez tenace.
Non, pas une haine, un mépris, c'est pas pareil.
Oui, alors un mépris.
Ça fera plaisir à tout le monde, d'accord.
Okay. Voilà, il y a tous ces gens-là se sont complètement trompés, puisqu'on n'est pas sûr que la population au XXIe siècle aboutissent à 9 milliards et à la fin, vous nous donnez le chiffre, une fourchette entre 8 et 8,5. Et vous dites qu'on voit donc bien que cette histoire de bombe démographique est stupide.
Non, j'ai pas dit ça.
Donc multiplié par 8 en 2 siècles, si vous voulez, c'est quand même une bombe à retardement en plus. Bon, je crois qu'il y a un problème terrible dans ce livre et je pense qu'il est beaucoup plus dangereux à la limite qu'un livre comme Claude Allègre qui finalement nie des évidences, si vous voulez, et qui est, qu'on voit bien, emporté par
la suite. Voilà.
Mais vous affirmez un certain nombre de choses, mais vous les isolez. Mais encore une fois, tout ça n'a strictement rien à voir avec le principe de précaution. Nous savons tous que nous allons être, allez, je vous les accorde, entre 7,5 et 9 milliards d'humains. Vous êtes d'accord avec ça?
Bon.
Il est évident que tout ça engrange un certain nombre de problèmes qui n'ont rien à voir avec le principe de précaution.
Nous sommes d'accord, mais c'est pas pour ça que j'ai dit ça dans le livre, cher madame. J'ai construit pour aboutir au dernier chapitre, vous avez tout à fait raison, et je ne prétends pas que c'est lié au principe de précaution, donc au moins de la science rejoint, je dis qu'une partie des craintes de mes contemporains sont liées sur l'ignorance et la méconnaissance des ordres de grandeur. Donc les gens ne savent pas ce qu'est 1 milliardième de gramme ou 1 picogramme, ce qu'est une probabilité relative. Je construis à partir d'exemples empiriques où j'essaye d'expliquer aux gens qui me lisent qu'il y a des choses qu'il faut connaître avant d'avoir un avis, et notamment un avis d'écologistes, non pas scientifiques, mais politiques, qui se bâtit sur la crainte, qui se bâtit sur la méconnaissance, sur le fait que, par exemple, quand nous mangeons des végétaux, nous mangeons beaucoup plus de toxines naturelles que de traces de pesticides, et le rapport est de 1 à 10 000. Les gens ne savent pas ça. C'est que donc les végétaux, pour survivre, ils doivent fabriquer des toxines, sinon ils sont bouffés par des chenilles, par des papillons, etc.
Je suis tout à fait d'accord, mais regardez,
ça n'a rien à voir.
Dans le chapitre agriculture, par exemple, vous faites une critique du bio qui comporte beaucoup d'éléments vrais, d'ailleurs. Mais là aussi, vous faites un amalgame entre le bio et le pur. Vous prononcez le mot pureté. Bien. Je crois qu'il y a 2 problèmes très importants. Le premier, c'est que vous ne décrivez pas l'ensemble de toutes les modes agricoles aujourd'hui dits raisonnés et tous les labels successifs, d'ailleurs il y en a une foule, qui permettent d'améliorer l'agriculture et qui sont d'ailleurs pour cela labellisés par le Grenelle de l'environnement, mais même avant, vous le critiquez beaucoup, là je ne vois pas pourquoi,
non, je critique pas
en disant, non, dans votre livre, et vous dites que finalement, tout est fait de chimie et nous-mêmes, c'est ce qui est tout à fait exact.
Nous sommes bien tous entendu, issus du carbone, c'est
mais
sûr.
Vous qui décrivez assez bien les problèmes de dose, vous savez parfaitement qu'au problème de dose, il y a les problèmes de seuil.
Bon. Sûr, hein.
Et que c'est à partir d'un certain seuil que les choses deviennent dangereuses. Et c'est qu'à partir d'un certain seuil, en particulier de produits chimiques, agricoles, etc., que nous avons un véritable danger. Donc ça, je veux dire, c'est justement lorsque on découvre un procédé chimique nouveau qui va faire un engrais, etc., c'est le principe de précaution de considérer est-ce que la comparaison entre les coûts et les avantages, à la condition que l'on ne dépasse pas un certain seuil, voilà pourquoi
mais
il est utile.
Mais le principe de précaution, si c'est pas du coût bénéfice.
Si les gens partent de France, et vous savez parfaitement pour des problèmes de moyens scientifiques.
Non, les gens qui travaillent sur les cellules souches sont partis.
C'est pour des problèmes aussi d'internationalisation générale des équipes. Je pense simplement que le principe de précaution doit être sauvegardé. Et moi, je voudrais quand même dire que je suis contente du débat qui a été conclu le 22 juin 2010 à l'Assemblée nationale, parce que, cher ami, comme on dit, quand on n'est pas d'accord, des gens comme vous ont tout fait.
Je ne suis d'aucun lobby, je suis tout fait à ce moment-là
pour que le principe de précaution soit déconstitutionnalisé. Et finalement, non. Je veux dire, les députés ont dit qu'il devait être appliqué à la lettre, mais sans plus, qu'on devait lui joindre un esprit d'innovation. Mais il a donc été, il faudrait quand même le dire, après ce débat, confirmé par la représentation nationale.
Vous parlez de droit, moi je parle de fait, et je dis que pour l'instant, le principe de précaution, à l'exemple de la grippe en état, nous conduit à faire des bêtises.
Alors, aujourd'hui, je dirais très simplement que nos concitoyens, qui ne sont pas du tout des gens qui sont contre la science, mais qui cherchent simplement du sens, quel mot on met derrière les mots de progrès, sont un peu inquiets de voir, on va dire, l'ensemble de la Terre transformée en paillasse de laboratoire. Alors effectivement, c'est peut-être aussi pour ça que ce principe de précaution peut être de temps en temps efficace. Évidemment que le risque zéro n'existe pas. On sait qu'à partir du moment où l'on est, on est de toute façon en danger de mort. Ça, c'est parfaitement acquis. Et en même temps, alors, on sent, est-ce qu'il n'y a pas des choses un peu contradictoires? C'est-à-dire que de vouloir plus de sécurité d'un côté, et puis en même temps, il y a aussi les craintes qui montent.
Mais l'inquiétude, elle a toujours existé, et quelquefois à très bon escient. Ce que je rappelle, c'est des choses assez simples, c'est que le monde dans lequel nous vivons, nous les Occidentaux au moins, mais les autres aussi, nous a été très 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 bénéfique. Et ça a été très bénéfique, justement parce que au moment de la Renaissance, on a séparé les ordres, justement parce qu'il y a des gens qui ont dit que tout n'était pas religieux, justement parce qu'on a cru dans les expériences. Si vous voulez, entre le moment où moi je suis né et aujourd'hui, les Français ont gagné 21 années d'espérance de vie et le nombre de mois de dépendance a baissé. Donc tout ça, c'est pas dû aux croyances et aux droits, c'est dû à la science, c'est dû à la recherche, c'est dû au fait que des gens se sont battus pour avoir la liberté de penser, la liberté de dire.
C'est donc du droit. Je crois que là où Jean de Kerouadet a raison, c'est que nous sommes dans un monde de peur. Et je m'excuse de dire ça à une antenne de radio, il le dit dans son livre, qui est très souvent, pas du tout évidemment dans des émissions comme la vôtre, cher Denis, dû au traitement médiatique des choses
et
au
phrase.
Traitement sensationnel. Et que du coup, la crainte très normale d'une société complexe où nous sommes se transforme en peur et donc se transforme en angoisse paralysante. Mais si j'avais un mot pour conclure, ce serait finalement le mot de Jean-Pierre Dupuis. Il y a quelque chose de beaucoup plus paralysant, me semble-t-il, que le principe de précaution, c'est le fait de nier les dangers. Et le fait de nier les dangers paralyse complètement. Et ça, j'ai très peur qu'un livre comme le vôtre, qui comporte de bonnes choses tout à fait intéressantes, aille malheureusement dans ce sens.
Voilà, donc La peur est au-dessus de nos moyens, c'est édité chez Plomb. Merci à tous les deux et dans quelques instants, notre agenda.
On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté, sur un fil léger. On pourrait se balancer, tout bousculer, toi et moi à côté. D'ici, on voit tout petit, au-dessus de ce tapis gris. Sur un filin, sur un fil en nylon, au-dessus de ce confilon, tous les deux dans le même pull, nos deux cœurs.
tout bousculer, toi et moi à côté. Au pied de ce cocotier, y a plein de cruauté. Et toi, t'es grimpé avec ton collier en graines de palmier dans ce cocon lié. Pour être balancé et tout bousculer, toi et moi à côté sur un fil léger. Tout bousculer, toi et moi à côté. Pour pas tout gâcher et rester accroché sur cette corde à sauter, nos deux corps dessinés et de là s'envoler, s'envoler.
Balancer, c'était Ours sur France Inter. Allez, dernière partie de cette émission.
L'agenda de CO2 Mon Amour.
Pour faire une liaison assez facile avec Ours que l'on vient d'entendre tout de suite, vous avez le numéro de Terre Sauvage de ce mois de mars qui est consacré à la Slovaquie sur la piste des ours. Oui. Donc sur la piste des ours. Et puis aussi, vous avez un très beau reportage sur la Brenne au cœur des mille étangs avec un certain nombre de contradictions aussi sur place. Donc région tiraillée entre la préservation de sa biodiversité puis aussi une course au rendement. Donc ça se passe dans la Brenne et d'autres sujets encore dans le numéro de Terre Sauvage. Je vous propose de feuilleter un autre ouvrage qui s'appelle L'oligarchie, ça suffit, vive la démocratie, aux éditions du Seuil, avec vous, Hervé Kempf, et moi, je pensais que nous étions quand même en démocratie, racontez-nous.
Moi aussi, je le pensais jusqu'à ce que je redécouvre ou je découvre cette notion que nous ont légué les Grecs du 5e et du 4e siècle avant Jésus-Christ. Les Grecs ont créé les conceptions politiques qui fondent la culture occidentale. Et ils avaient inventé la démocratie, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. L'idée de dictature, le gouvernement d'un seul, on connaît bien. Par exemple, on avait des exemples tout à fait récents en Tunisie et en Égypte. Et puis, ils avaient imaginé aussi un troisième régime qu'on a complètement oublié, qui est le régime oligarchique, c'est-à-dire un système dans lequel un petit nombre de gens, oligo ça veut dire peu nombreux, un petit nombre de gens vont discuter entre eux, vont délibérer entre eux, éventuellement vont être en désaccord, et puis ils vont finir par se mettre d'accord, et cet accord, ils vont ensuite imposer la décision à l'ensemble de la société. Eh bien, j'ai l'impression qu'il y a tellement de symptômes de la dégradation de la démocratie dans laquelle nous sommes, qu'on pourrait rapidement citer eh bien, le pouvoir extrêmement grand du système financier sur le pouvoir politique, le contrôle très majoritaire des médias par des grandes puissances capitalistiques, le fait que l'argent ait énormément d'importance dans la politique, le fait qu'il y ait énormément de lobbies qui agissent en coulisses dans les lieux de prise de décision. Donc on a tout cet ensemble de dégradation des processus démocratiques et qui peut faire penser que on est effectivement sans doute en train de dériver vers cette forme de dérive oligarchique.
Alors Hervé Kempf, maintenant, conséquences sur l'environnement, que l'on comprenne bien comment, on va dire, cette oligarchie fait ou ne fait pas face à l'environnement et face aux problèmes qui nous sont posés.
C'est-à-dire cette oligarchie, elle s'est constituée dans les trois dernières décennies, disons, où on a observé dans tous les pays occidentaux une augmentation continue de l'inégalité à l'intérieur de tous les pays entre les groupes sociaux. Après une période où certes il y avait une inégalité, mais la répartition des revenus était assez stable. Et donc on a une situation où il y a un petit groupe de gens qui est extrêmement riche au sommet de la société, qui est contrôle très largement et conditionne l'opinion publique et donne les grandes directions des politiques à mener. Et bien ces gens, ils sont essentiellement obsédés par conserver leurs privilèges, conserver une surconsommation tout à fait exagérée. Donc par exemple, on peut avoir des exemples quand on voit des ministres qui vont en avion privé passer quelques jours de vacances dans des palaces de luxe, etc.
Je vois pas du tout à quoi vous faites allusion, mais c'est pas grave.
C'est-à-dire ce genre d'histoire, à vrai dire, il y a vraiment des exemples tous les jours, donc ça nous parle finalement assez aisément. Et puis aussi, qui est cette oligarchie qui veut maintenir ses privilèges, veut convaincre l'ensemble de la société qu'il faut absolument plus de croissance matérielle, qu'il faut toujours augmenter la production, parce qu'elle pense finalement que avoir cette croissance permettra de maintenir un petit peu le niveau de vie et donc évitera aux gens de réfléchir et de se poser des questions.
Cela dit, c'est pas forcément faux. On a quand même vu aussi une évolution grâce quand même à l'élévation du niveau de vie. Ça s'est vu en France, ça s'est vu dans le monde entier.
Incontestablement, mais avec un effet majeur, c'est qu'on a un impact écologique qui est devenu absolument, j'allais dire, monstrueux, le mot est exagéré, mais extrêmement grave et qui n'est plus supportable, que cette amélioration du niveau de vie semble s'être interrompue, en tout cas pour une large partie de la population depuis quelques années, et qu'on a aussi cette inégalité qui est extrêmement forte, qui veut dire qu'on n'arrive pas à adopter des politiques d'environnement et des politiques sociales qui seraient nécessaires.
Alors quels seraient les scénarios envisageables ?
Dans la situation où on est, la situation est assez grave, aussi bien sur le plan écologique où les tensions environnementales sont de plus en plus perceptibles dans les différents pays, et puis sur le plan social où cette inégalité est elle aussi de mieux en mieux perçue par les populations et de moins en moins acceptée. Donc on peut avoir le scénario noir, c'est un scénario où l'oligarchie se crispe, se bloque, recourt à des solutions de plus en plus autoritaires pour maintenir sa position, et donc on répond à la crise par un recul vraiment grave des libertés et justement de ce qui reste de la démocratie. Le scénario optimiste, c'est on arrive à reconquérir par un certain nombre de luttes, et après tout l'histoire récente nous montre que c'est pas une utopie, c'est pas un rêve, les choses peuvent bouger, et bien le peuple, l'assemblée des citoyens, une large fraction de la société reprend le pouvoir, réinvestit la démocratie, réhabite la démocratie, et on commence à pouvoir parler de toutes les alternatives qui, en fait, existent partout dans toute la société pour aller dans une économie beaucoup plus écologique et beaucoup plus juste, mais qui, pour l'instant, sont un petit peu en dehors du radar. Et on arrive à mettre tout ça sur la scène et à vraiment poser la question des choix collectifs qu'on doit faire face à ces différentes tensions.
Hervé Kempf, aujourd'hui, nous sommes, on le sait, l'humanité confrontée donc aux limites de la biosphère. On ne fera pas sans la nature aujourd'hui. Réchauffement climatique d'un côté, biodiversité, énergie, mais ce que nous entendons bien aussi à travers vos propos et à travers votre ouvrage, c'est qu'il faut une restauration civique. Est-ce qu'elle peut être fondée, on va dire, sur la vertu, comme Montesquieu l'entendait ?
Oui, en n'ayant pas peur de ce mot un peu bizarre, ou même, j'allais dire, du sens moral. On pourrait citer Montesquieu, on pourrait citer aussi George Orwell, qui parlait avec la common decency, le sens commun, et aussi cette idée que les citoyens participent à la société. Et on a effectivement besoin de retrouver cette vertu, si on veut bien appeler celle-ci le souci des autres. L'idée que chacun, on va s'investir dans la vie politique, au sens le plus large du terme, on va s'investir dans la chose publique, et que effectivement une démocratie, elle vit par des institutions, elle vit par des lois, elle vit par des dispositifs, mais elle vit aussi par les citoyens qui choisissent de s'intéresser pas seulement à leurs petites affaires, mais aussi aux affaires globales de la société. Et de ce point de vue-là, si on veut aller dans la direction du scénario positif, optimiste, qu'on a décrit très rapidement, ça suppose quand même que les gens ne s'occupent pas seulement d'être, corrects sur le plan écologique, parce qu'on mangera bien, qu'on fera du vélo et tout ça, mais qu'on soit aussi dans une action collective, une action politique au plein et beau sens du terme.
L'oligarchie, ça suffit, donc signé Hervé Kempf, Vive la démocratie, c'est aux éditions du Seuil. Je passe maintenant à la Garance voyageuse, revue du monde végétal. Christine Damonville, vous êtes la rédactrice en chef de ce numéro hors série qui vient de sortir, donc sur les plantes médicinales. Qu'est-ce que vous avez voulu faire ?
Eh bien, nous avons voulu montrer les relations étroites que l'homme a établies avec les plantes médicinales, et ceci depuis la nuit des temps, depuis la préhistoire, puisqu'on a même trouvé des pollens, des cédras dans les tombes néandertaliennes. On a voulu montrer une vision objective de cette utilisation des plantes médicinales avec la situation actuelle de l'herboristerie en France, les problèmes liés à l'utilisation inconsidérée des plantes médicinales. Enfin, donc vraiment montrer toute la diversité de la problématique de cette phytothérapie qui est à la base en fait de la médecine, de la pharmacie. Quand on sait qu'il y a plus de 35 000 espèces de plantes médicinales dans le monde et que les deux tiers proviennent de cueillettes dans la nature, on peut comprendre que ça peut entraîner des problèmes plus ou moins importants.
Christine Damonville, les hommes se soignent par les plantes, mais aussi les animaux.
Eh bien, actuellement, on s'intéresse beaucoup aux chimpanzés parce qu'on s'est rendu compte qu'ils sont vraiment très proches de nous puisqu'ils savent se soigner. Et donc, ils utilisent des plantes qui pourraient nous informer, nous apporter de nouvelles molécules thérapeutiques. Et ils transmettent leurs connaissances médicales à leurs petits. C'est une voie de recherche actuellement qui permettrait peut-être de nous trouver de nouveaux médicaments.
Ça s'appelle donc la garance voyageuse. Merci à Marion Lelay, à Jean-Christophe Pinaza, à Valérie Ayestaraï qui réalisait l'émission, à Muriel Pérez qui a choisi les disques, Anne Gouzon qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. On se retrouve la semaine prochaine. On va parler de déchets, tenez, la semaine prochaine. Et aussi de tri mécano-biologique. Vous allez voir, c'est intéressant. La Tulumon Petit Loup, ce sera demain à 19h54 après les petits bateaux. Denis Chessou, je vous souhaite un très bon week-end.